Chapitre 3. Kenneth fait sa cour.
Je veux qu'on me laisse sortir d'ici.
Kenneth referma la porte derrière lui et posa le plateau. Avec un calme étudié, il se retourna vers Althea.
Y a-t-il quelque chose dont vous manquiez ?
Demanda-t-il avec une politesse appuyée.
L'air frais et la liberté de mouvement,
répondit-elle aussitôt. Elle était assise au bord de sa couchette. En se levant, elle dut se retenir à cause du léger roulis. Elle avait une main sur la tête de lit pour garder l'équilibre. Et il fronça les sourcils.
Vous vous trouvez maltraité, c'est cela?
Pas exactement. J'ai l'impression d'être prisonnière et...
Oh, jamais de la vie. Vous êtes mon hôte, très honorable. Je suis blessé que vous ayez cette impression. Allons, soyez franche. Y a-t-il quelque chose en moi qui vous offusque? Mon aspect vous effraie-t-il? Si c'est le cas, soyez assuré que ce n'est pas mon intention.
Non, non.
Il la vit qui essayait de formuler une réponse.
Vous êtes courtois, pas du tout effrayant. Vous ne m'avez montré que politesse et amabilité, mais la porte était fermée à clé quand j'ai voulu l'ouvrir.
Allons. Asseyez-vous et mangez un peu. Nous allons en discuter.
Il lui sourit et réussit à s'empêcher de la détailler. Elle était habillée des vêtements de Yéma, et, avec ses cheveux tirés en arrière, la ressemblance entre eux était encore plus frappante. Elle avait les mêmes yeux bruns, les mêmes pommettes, mais elle n'était pas défigurée par un tatouage. Elle avait revêtu les habits de Yéma, croyant probablement qu'ils seraient moins provoquants que la chemise de nuit de Kenneth. Mais c'était tout le contraire. Les seins qui pointaient sous la chemise lui firent battre le sang. Dans son ardeur, Althea avait légèrement rosi, mais l'éclat anormal dans ses yeux prouvait qu'elle n'était pas complètement affranchie de l'influence du soporifique qu'il lui avait administré. Il ôta les couvercles des plats et les plaça devant elle, tout comme le mousse Kenneth autrefois servait à la table du pirate Ygrotte.
Les étranges analogies abondent, songea-t-il.
Il repoussa cette pensée et se força à garder le ton de la conversation.
Je vous ai expliqué mes inquiétudes. Mes hommes d'équipage ne sont pas issus de la société dans laquelle vous avez été élevés, malheureusement. Vous laissez toute liberté sur le navire, ce serait provoquer un affront, voire une agression. Beaucoup sont d'anciens esclaves. Certains étaient même esclaves ici, sur ce navire. Et ils ont passé du temps dans les cales, enchaînés dans le froid et les immondices. C'est votre famille qui les y a enfermés. Ils ne portent pas les proches de Kyle Havre dans leur cœur. Vous dites que vous n'êtes pas responsable de la façon dont il les a traités, ni de l'usage qu'il a fait de votre navire, mais je crains qu'il ne soit difficile d'en convaincre l'équipage. Ou même le navire. Je sais que c'est surtout Vivacia qui vous attire.
Il sourit avec indulgence.
Si vous étiez libre de quitter cette cabine, vous vous précipiteriez vers la figure de proue. Car je sais que vous ne me croyez pas quand je vous dis que Vivacia a disparu.
Du coin de l'œil, il la vit faire la moue et carrer la mâchoire, comme Yéma quand il était fâché. Cela faillit le faire sourire, mais il garda sa contenance. Il secoua la tête avec gravité.
Pourtant, c'est la vérité. Et Foudre ne sera pas gentille avec vous. Irait-elle jusqu'à user de violence envers vous? En toute honnêteté, je l'ignore, et je préfère ne pas tenter l'expérience.
Il soutint son regard pétrifié en la gratifiant de son sourire le plus chaleureux. Quels yeux noirs!
Allez, mangez un peu, vous vous sentirez plus raisonnable.
Une ombre d'incertitude flotta sur le visage d'Althea. Et il se rappela ce sentiment. Ygrotte, la brutalité incarnée, passait brusquement, après des jours de dureté et de cruauté, à une distinction affectée. Durant une semaine, il lui parlait avec douceur, lui enseignait les bonnes manières et posait sur lui des regards empreints d'une tendresse paternelle. Il le complimentait sur son travail et lui prédisait un brillant avenir. Puis, sans crier gare, s'abattait la rude poigne qui le tirait, et les favoris rugueux sur les joues du pirate lui râpaient la peau quand il se débattait dans son étreinte. Il se sentit soudain vulnérable. S'était-il mis en danger avec cette femme? Il essaya de retrouver son franc sourire, mais ne réussit qu'à la jauger d'un œil insistant. Elle lui retourna son regard.
« Je n'ai pas faim, » dit-elle platement. « Vous avez mis dans ma nourriture quelque chose qui me fait dormir. Cela ne me plaît pas. Je n'aime pas les rêves trop réels. Je n'aime pas ce que j'éprouve quand je n'arrive pas à me réveiller. »
Il parvint à prendre un air scandalisé.
« Ma jeune dame, je crains que vous n'ayez été beaucoup plus éprouvée que vous ne le croyez. Vous avez dormi pour vous remettre d'une noyade dans l'eau glacée et aussi de vos mois de doute et de peur. Aujourd'hui que vous êtes à bord de votre navire, il est naturel que votre corps se détende et vous permette de vous reposer. Mais attendez, laissez-moi vous rassurer. »
Il s'assit avec précaution sur la chaise. Avec une précision exagérée, il mangea une bouchée de chaque plat et feignit d'avaler une gorgée de vin. Il se tapota pensivement les lèvres avec la serviette, puis se retourna pour lui sourire.
« Voilà. Satisfaite? Pas de poison. »
Il pencha la tête vers elle et haussa un sourcil.
« Mais pourquoi supposer que je veuille vous empoisonner? Vous me prenez donc pour un monstre? Vous me redoutez? Vous me haïssez à ce point? Non, non, c'est que... Je sais que vous avez été bon pour moi, mais... »
Elle reprit haleine et il devina qu'elle regrettait sa sotte accusation.
« Je n'ai pas parlé de poison. Je sais seulement que je dors trop profondément et que je me réveille dans le brouillard. J'ai toujours la tête lourde. Je ne me sens jamais l'air dispo. »
Elle branlait légèrement la tête tout en restant bien campée sur ses pieds. Il fronça les sourcils comme s'il était très inquiet.
« Ne vous êtes-vous pas heurté la tête en passant par-dessus bord? Avez-vous une contusion ?»« Non. C'est-à-dire, je ne pense pas. »
Elle porta les mains à son crâne et appuya, l'air grave.
« Permettez-moi. »
Et il repoussa la chaise en lui faisant signe de prendre sa place. Elle s'avança avec raideur et s'assit très droite, tandis qu'il lui posait les mains sur la tête. Il se tenait devant elle. Elle voyait son visage tandis qu'il lui tâtait doucement le crâne. Avec une indifférence qu'il était loin de ressentir, il lui détacha les cheveux et il fronça les sourcils.
Parfois, un choc sur la nuque ou sur la colonne vertébrale,
marmonna-t-il pensivement. Puis, il passa derrière elle et repoussa la masse lustrée de sa chevelure. Il se pencha et suivit du doigt la ligne de sa nuque jusqu'au col. Elle restait assise, docilement, tête baissée. Pourtant, il sentait vibrer ses muscles tendus. Peur, appréhension? Impatience, peut-être. Ses cheveux exhalaient un léger parfum, mais la chemise gardait l'odeur de yémin. Le mélange était enivrant. Il fit glisser ses doigts le long du dos.
« Ça fait mal ?»
demanda-t-il avec sollicitude. Il s'arrêta à la ceinture des culottes, mais ne retira pas la main.
« Un peu, »
avoua-t-elle. Il sourit à sa chance.
« Au milieu du dos ?»«
Ici ?» Il remonta doucement le long de la colonne vertébrale jusqu'à ce qu'elle hoche la tête.
« Eh bien alors, c'est peut-être la cause de votre malaise. Avez-vous eu des vertiges, la vue trouble ?»«
Un peu, »
concéda-t-elle à regret en relevant la tête.
« Mais je continue à croire que ce n'est pas la seule cause de ma somnolence. »«
Moi, je crois que si, »
affirma-t-il doucement, la main toujours sur le dos d'Althea.
« À moins que... »
Il s'interrompit pour s'assurer qu'elle était suspendue à ses lèvres.
« Je suis désolé de faire cette supposition. Vous savez certainement de quoi je parle quand je mentionne un lien avec la vive nef. Elle sent mes humeurs. Elle me communique les siennes. Si d'aventure le navire était furieux contre vous ou hostile, s'il vous voulait du mal,
Là, je suis désolé d'avoir suggéré une chose pareille. » C'était à dessein qu'il avait augmenté son inquiétude, mais le visage d'Althea avait pâli bien au-delà de ses espérances. Il faudrait se montrer plus circonspect. Il ne voulait pas lui ôter toute sa combativité, une petite lutte pouvait ajouter un peu de piquant à la conquête, et il eut un sourire rassurant. « Mangez un peu, il faut reprendre des forces. »«
Vous avez peut-être raison, »
concéda-t-elle d'une voix enrouée. Il désigna les plats d'un geste et elle se retourna vers la table. Alors qu'elle prenait une bouchée à la cuillère qu'il avait tout à l'heure dans la bouche, il sentit l'aiguillon du désir le percer avec une acuité jamais éprouvée. Surpris, il ne put que réprimer un hoquet de suffocation.
La nourriture était excellente, mais le pirate la regardait manger avec une attention si soutenue qu'elle n'arrivait pas à se détendre, non plus qu'à se réveiller tout à fait. Elle prit une petite gorgée de vin et, presque aussitôt, sa vue se dédoubla. Elle cligna les yeux et se sentit subitement trop fatiguée pour continuer à avaler. Elle reposa la cuillère. Il était si difficile de fixer ses pensées. Un mot de Kenneth les envoyait vagabonder, mais il y avait quelque chose d'important, quelque chose qui lui échappait.
« Je vous en prie, » dit-il avec sollicitude, « essayez de terminer votre repas. Je sais que vous ne vous sentez pas bien, mais vous avez besoin de manger pour vous remettre. »
Elle parvint à esquisser un sourire poli. « Je ne peux pas. » Elle se racla la gorge et tâcha de se concentrer. Les paroles de Kenneth persistaient à emporter ses idées. Quand il était entré, il y avait quelque chose de très important qu'elle avait voulu lui demander, aussi important que son désir de sortir de la chambre et de parler au navire. « Brachen !» dit-elle tout haut en s'apercevant que prononcer son nom lui redonnait des forces. « Le capitaine Trelle, pourquoi n'est-il pas venu me voir ou ne m'a-t-il pas ramené sur le parangon ?»«
Eh bien, je ne sais trop que répondre à cela. »
La voix de Kenneth trahissait une profonde inquiétude. Elle dut tourner la tête pour le regarder et la cabine se mit à tanguer. Le vertige était de retour, sa langue s'épaissit dans sa bouche.
« Que voulez-vous dire ?»
Il inspira profondément et expira avec lenteur.
« Je croyais que vous aviez vu depuis la mer. Je suis navré de vous apprendre, ma chère, que les serpents ont infligé de graves dégâts au parangon. Hélas, le navire a sombré. Nous avons tout tenté pour leur porter secours, mais les serpents sont si voraces. Le capitaine Trelle a sombré avec son navire. Nous n'avons rien pu faire. C'est un miracle que nous vous ayons sauvé. »
Il lui tapota l'épaule gravement.
« J'ai bien peur que ce navire ne doive redevenir votre foyer maintenant. N'ayez crainte, je prendrai soin de vous. »
Elle fut noyée sous le flot de paroles. Elle ne saisit leur sens qu'à retardement. Quand elle comprit enfin, elle se leva d'un bond. Du moins, le crut-elle. Elle se retrouva debout, les mains agrippées au plateau de la table pour éviter de tomber. Ce vertige lui était odieux, il la distrayait d'une douleur si vaste qu'il ne pouvait s'agir que de mort. Elle était incapable d'en définir la cause, mais elle savait que c'était la fin de son univers. Elle avait continué seule, sans lui, ou, d'une façon ou d'une autre, il l'avait abandonnée. Brachen, Ambre, Cliff, Aff, le pauvre vieux Clapot. Parangon. Ce cher vieux fou de Parangon. Tous morts, dans cette quête insensée qui était la sienne. Elle les avait tous conduits à la mort. Elle ouvrit la bouche, mais la souffrance était si atroce qu'elle ne put même pas pleurer.
« Allons, allons !» disait Kenneth qui cherchait à la guider vers sa couchette.
Elle avait oublié comment on plie les genoux, puis brusquement, ils se dérobèrent sous elle. Elle faillit tomber, se cogna les côtes sur le rebord de la couchette et grimpa à quatre pattes dans le lit qui avait été si souvent son refuge.
« Brachen, Brachen, Brachen !»
Elle ne cessait de répéter son nom, mais elle avait la gorge si serrée qu'aucun son n'en sortait. La cabine tournoyait, elle suffoquait, peut-être allait-elle mourir avec son nom coincé dans la gorge. Kenneth s'assit à côté d'elle. Il la tira en position assise. Elle s'appuya contre sa poitrine et il l'enlaça.
Voilà, je suis là. Allons, allons. Un choc terrible, je sais. Quelle maladresse de ma part de vous avoir annoncé la nouvelle de cette façon. Comme vous devez vous sentir seul. Mais je suis là. Tenez, prenez un peu de vin.
Elle avala une gorgée à la tasse qui lui portait aux lèvres. Elle ne voulait pas en boire beaucoup, mais la tasse ne quittait pas sa bouche, et elle avait l'impression de n'avoir plus aucune volonté.
Kenneth parlait doucement tout en la faisant boire. Quand il n'eut plus de vin, il reposa la tasse, serra Althea dans ses bras. Elle avait le visage enfoui dans la fine dentelle de son jabot. Il lui caressait les cheveux, la berçait comme on berce un enfant, lui débitait des sottises. Il prendrait soin d'elle désormais, tout irait bien, avec le temps, tout irait bien. Elle n'avait qu'à lui faire confiance, se laisser aller. Il l'embrassa doucement sur le front. Il lui tripotait la gorge. Elle leva la main et découvrit qu'il lui déboutonnait sa chemise. Elle le repoussa, sentant confusément que quelque chose clochait. Il lui écarta doucement les mains et sourit avec compassion. « je sais, mais il ne faut pas avoir peur de moi. Soyez raisonnable, vous ne pouvez pas dormir tout habillé. Songez combien ce serait inconfortable. »
Comme tout à l'heure, les paroles du pirate chassèrent ses idées. Il défit les petits boutons avec soin et ouvrit la chemise.
« Allongez-vous, » murmura-t-il, et elle obéit sans réfléchir.
Il baissa la tête sur les seins d'Althea et les embrassa doucement. Sa bouche était chaude, sa langue experte. L'espace d'un instant, la tête brune penchée sur elle était celle de Braschen, et c'étaient les mains de Braschen qui délaçaient ses culottes. Mais non, Braschen avait disparu, noyé dans la mer noire et froide, et ça n'allait pas, elle ne pouvait trouver ici aucun réconfort. Aussi chaude et douce que soit cette bouche, elle n'en voulait pas. « Non !» gémit-elle soudain en repoussant Kenneth. Elle parvint à s'asseoir. La lumière de la lanterne derrière lui était éblouissante, elle cligna les yeux en voyant son visage dédoublé.
« Ce n'est qu'un rêve !» dit-il sur un ton rassurant. « Ce n'est qu'un mauvais rêve, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'un rêve, ça n'a pas d'importance. Personne ne saura. »
Elle le voyait. Elle voyait ses yeux bleus pâles. Il lui était étranger, impossible de lire dans ces yeux-là. Les paroles noyèrent ses certitudes. Un rêve? Était-elle en train de rêver? Elle ferma les yeux sur la lumière trop vive. Une poussée à l'épaule, et elle retomba mollement en arrière. Quelque part, on la tirait. Elle sentait l'étoffe fraîche frotter sur ses jambes. Non. Elle se força à soulever les paupières, chercha à fixer sa vision. Le visage était tout proche, mais elle ne pouvait en reconstituer les traits. Une main glissa le long de sa cuisse. Elle poussa un cri de protestation quand les doigts s'insinuèrent en elle et la main s'écarta.
« Ce n'est qu'un rêve, » répéta la voix.
Il remonta la couverture et l'aborda douillettement.
« Vous êtes en sécurité maintenant. »
« Merci, » dit-elle confuse. Alors il se pencha et l'embrassa. Sa bouche était dure et il la clouait sur le lit. Quand il la lâcha, elle s'aperçut qu'elle pleurait. Elle pleurait sur qui? Braschen? Tout était si embrouillé. « Je vous en prie, » supplia-t-elle, mais il avait disparu. Soudain, il faisait noir dans la chambre. Avait-il soufflé la chandelle? Était-il vraiment parti? Elle attendit, mais tout était tranquille et silencieux. Elle avait rêvé. Elle était bien réveillée maintenant, en sûreté sur son navire. Elle sentait le doux roulis de Vivacia qui taillait la lame avec assurance. Le mouvement était comme une danse.
C'était aussi réconfortant que le balancement d'un berceau, et Althea n'avait jamais dansé avec Brashen, et maintenant il n'était plus. Un sanglot la secoua qui n'était pas une libération. Les larmes ne firent qu'augmenter son vertige et son hébétitude. Tout allait mal, et elle était trop souffrante, elle n'arrivait pas à saisir quoi que ce soit. Brashen avait eu besoin d'elle pour être fort, et elle l'avait abandonné. Il était mort, mort, disparu à jamais, comme son père mort, disparu à jamais. Elle s'agenouilla de nouveau, auprès du corps de son père, sur le pont, et une fois de plus, elle eut l'impression d'être arrachée à son univers. « Pourquoi ?» demanda-t-elle au silence. « Pourquoi ?» Le poids qui pesa soudain sur elle chassa l'air de ses poumons. Une main se plaqua sur sa bouche.
« Silence, maintenant. Silence !» fit une voix menaçante à son oreille. « Tais-toi et personne ne saura jamais si tu es raisonnable. »
Le vieux cauchemar était résistant et elle était malade. Elle voulut le repousser, elle crut l'avoir repoussé. Mais quand elle se retourna pour se dégager, elle entendit un rire étouffé. Il était soudain sur son dos, il rejetait la couverture. Elle était nue. Comment s'était-elle déshabillée? Ses muscles n'avaient plus aucune force. Plus elle faisait d'efforts pour s'échapper, plus son corps s'affaiblissait. Elle émit un son, la main plaquée sur sa bouche lui obstrua le nez et lui tira la tête en arrière. Cela faisait mal, elle ne pouvait pas respirer, elle ne savait plus où elle était ni ce qui se passait. Elle avait besoin de respirer avant tout. Elle saisit le poignet qui la maintenait et essaya faiblement de lutter. Des étincelles dansaient devant ses yeux. De son genou, il lui écarta les jambes. Il lui faisait mal, lui tirait si fort la tête en arrière, mais la douleur était moins importante que le besoin de respirer. La main glissa pour ne couvrir que sa bouche. Elle inhala par saccades. Tout à coup, d'une poussée brutale, il la pénétra profondément. Elle cria sans émettre aucun son, se cabra sous lui, mais ne put se dérober. Devon l'avait prise de la même manière, en pesant si fort sur elle qu'elle était incapable de respirer. Le souvenir involontaire de cette première fois lui revint subitement. Les cauchemars se confondirent, elle luttait seule, elle n'osait pas crier de peur que quelqu'un voie ce qui lui arrivait. Elle avait été déshonorée, son père le saurait, c'était elle la coupable. C'était toujours sa faute. Elle pleurait devant Kefria, elle suppliait sa sœur de comprendre, elle disait... « J'avais peur, j'ai cru que je voulais, et puis je me suis rendu compte que je ne voulais pas, mais je ne savais pas comment l'arrêter. »«
C'est ta faute !» sifflait Kefria, trop horrifiée pour la plaindre. « Tu l'as amenée à faire ça, et c'est ta faute !»
Les mots accusaient Althea, elle n'avait pas subi, elle avait agi. Tout lui revint, aussi âpre que le sang. L'écho lancinant de l'homme brutal, le besoin panique de respirer, le désespoir auquel elle était réduite, forcée de garder le secret. Personne ne doit savoir. Elle grinça des dents, oublia la rude étreinte sur sa poitrine. Elle tenta de se réveiller de ce cauchemar, de s'écarter en rampant, mais il la chevauchait, impossible de fuir. Elle heurta violemment de la tête contre le bois et faillit s'assommer. Elle recommença à pleurer, vaincue.
« Brashen, » voulut-elle dire, « Brashen, » parce qu'elle s'était promis qu'il n'y aurait jamais d'autre homme. Mais la main était toujours plaquée sur sa bouche et les coups de boutoir continuaient. Difficile de respirer. La souffrance était moins angoissante que le manque d'air. Avant que tout soit fini, le noir monta autour d'elle pour l'entraîner, mais elle s'y jeta volontairement, plongea vers le fond, espérant que la mort était venue la chercher. Kenith se retourna et referma soigneusement la porte à clé derrière lui. Ses mains tremblaient. Son souffle était précipité et il n'arrivait pas à le ralentir. Le moment avait été si intense. Il n'aurait jamais imaginé que le plaisir puisse atteindre à cette violence. Il n'osa pas y arrêter sa pensée. Il serait alors obligé de retourner dans la cabine.
Où aller? Il ne pouvait regagner sa propre chambre, la putain y était, Yémin aussi probablement. Il remarquerait peut-être chez lui quelque chose d'inhabituel et se poserait des questions. Il avait besoin d'être seul. Il voulait réfléchir sur ce qu'il venait de faire, oui, le savourer, essayer de comprendre. Il ne parvenait pas à croire tout à fait qu'il s'était laissé aller de la sorte. Il ne pouvait pas davantage monter sur le gaillard d'avant, pas encore. Foudre y serait. Elle savait peut-être ce qu'il avait fait. Liée comme elle l'était avec lui et Althea, il se pouvait même qu'elle y ait participé. Cette idée ajouta une strate nouvelle à l'événement. Y avait-elle participé? Avait-elle voulu qu'il le fasse? Était-ce à cause de cela qu'il avait été incapable de se retenir? Était-ce à cause de cela qu'il avait éprouvé des sensations aussi fortes? Il s'aperçut que son pied et sa béquille l'avaient mené à l'arrière. L'homme à la barre le regarda avec curiosité et reprit sa tâche. La nuit était belle, le ciel clair était constellé. Le navire se soulevait à chaque lame et replongeait sans à-coups. Ils étaient flanqués de leur escorte de serpents, tapis multicolores, ondoyant sous la clarté des étoiles. Il s'appuya à la lisse et contempla le sillage du navire qui s'élargissait.
« Tu as dépassé les bornes !» fit observer la petite voix glacée à son poignet. « Qu'est-ce qui t'a pris ? Était-ce le seul moyen de bannir tes souvenirs que les donner à quelqu'un d'autre ?»
Les questions chuchotées restèrent en suspens dans la nuit et Kenneth garda un moment le silence. Il ignorait les réponses. Il savait seulement que son acte lui avait apporté la délivrance, plus encore que l'engloutissement de Parangon et de ses souvenirs. Il était libre. Alors...
« Je l'ai fait parce que je le pouvais, » dit-il froidement. « Je peux faire ce que je veux maintenant. »
« Est-ce parce que tu es le roi des pirates ? Ygrotte se donnait ce titre parfois, n'est-ce pas ? Pendant qu'il faisait ce qu'il voulait ?»
Une main se plaqua brutalement sur sa bouche. La souffrance, l'humiliation. Kenneth repoussa le souvenir avec colère. Il ne devait pas exister. Parangon était censé l'avoir emporté avec lui.
« C'est différent. »
dit-il, percevant lui-même qu'il était sur la défensive.
« Cela n'a rien à voir. Je lui plais. C'est une femme. »«
Ce qui rend la chose admissible ?»«
Bien sûr, c'est naturel. C'est tout à fait différent de ce qui m'est arrivé. »« Commandant ?»
fit l'homme à la barre. Kenneth se retourna vers lui, irrité.
« Qu'est-ce que c'est ?»« Je vous demande pardon, commandant, je croyais que vous me parliez. »
La clarté des étoiles se reflétait dans le blanc des yeux de l'homme. Il avait l'air apeuré.
« Mais non, fais ton travail et laisse-moi tranquille. »
Qu'avait-il entendu au juste, ce nigo ? Peu importait. S'il devenait gênant, Kenneth n'aurait qu'à le faire disparaître. L'envoyer près du bord sous un prétexte quelconque, un coup sur la tête, on le bascule par-dessus le garde-corps, ni vu ni connu. Kenneth n'avait personne à craindre, et ne craindrait personne. Ce soir, le dernier de ces démons avait été chassé. Le charme à son poignet observait un silence prolongé, plus accusateur que des paroles. Kenneth finit par chuchoter. « C'est une femme. Ça leur arrive tout le temps aux femmes, elles sont habituées. »«
Tu l'as violée. »
Il se mit à rire.
« À peine, je lui plais. Elle a dit que j'étais un monsieur courtois. »
Il respira.
Elle a résisté seulement parce qu'elle n'est pas une putain.
Pourquoi as-tu fait ça, Kenneth ?
La question était implacable. Le charme savait-il que cette question l'obsédait lui-même ? Il avait cru qu'il allait s'arrêter. Et il s'était arrêté. Jusqu'à ce qu'elle se mît à pleurer dans le noir. Si elle n'avait pas pleuré, il aurait été capable de s'en aller. Alors, c'était autant sa faute à elle, peut-être. Kenneth cherchait fébrilement une réponse. Il dit très bas, « Peut-être pour arriver enfin à comprendre pourquoi il m'avait fait ça. Comment il a pu me faire ça? Comment il pouvait passer de la gentillesse à la cruauté, des leçons de maintien aux accès de rage. La voix de Kenneth s'éteignit.
Tu n'es qu'un pitoyable salaud, proféra lentement l'amulette. Tu es devenu Ygrotte. Tu sais ça? Pour vaincre le monstre, tu es devenu le monstre.
La voix ténue diminua encore.
Désormais, tu n'as plus à craindre que toi-même.
Etta rejeta brusquement son ouvrage de broderie. Yémin leva les yeux de son livre, puis, avec un soupir furtif, le posa sur la table et attendit.
Je suis amoureuse de lui, mais cela ne veut pas dire que je suis aveugle.
Ses yeux noirs transpercèrent Yémin.
Il est encore avec elle, pas vrai?
Il lui a apporté un plateau, avança Yémin. Au cours de ces 4 derniers jours depuis leur retour sur la Vivacia, l'humeur d'Etta était devenue de plus en plus inégale. Il supposait que sa grossesse pouvait expliquer le fait. Pourtant, lorsque sa mère à lui était enceinte, elle était comme un gros chat ronronnant d'aise, du plus loin qu'il s'en souvint. Ce qui n'était pas beaucoup sans doute. Peut-être la grossesse n'y était-elle pour rien. Peut-être était-ce dû à la conduite bizarre, distraite de Kenneth. Peut-être était-elle simplement jalouse du temps que Kenneth consacrait à Althea. Il observa Etta avec circonspection en se demandant si elle allait jeter encore autre chose.
J'ai proposé qu'elle dîne avec nous. Il a dit qu'elle se sentait encore trop faible. Mais quand j'ai offert de lui apporter moi-même le plateau, il a prétendu qu'il avait peur qu'elle me fasse du mal. Tu y comprends quelque chose?
Ça paraît contradictoire,
convint Yémin prudemment. Ce genre de conversation était périlleuse. Alors qu'elle pouvait critiquer et même accuser Kenneth, le moindre mot de dénigrement de sa part à lui était ordinairement accueilli par une avalanche de reproches.
« Tu lui as parlé ?»
demanda Etta.
« Non. »
Il n'avouerait pas qu'il avait essayé. La porte était fermée à clé, de l'extérieur. Il n'y avait jamais eu de serrure sur sa porte à lui. Kenneth avait dû la faire poser ici dès qu'il y avait caché Althea, et il n'y avait pas eu de réponse à son appel discret. Etta le dévisageait en silence, mais il ne lui fournirait aucun renseignement. Il détestait la voir ainsi agitée et blessée. Tout en sachant qu'il avait tort, il posa quand même la question.
« Vous avez parlé à Kenneth ?»
Elle écarquilla les yeux comme s'il avait dit quelques mots obscènes. Elle croisa les bras d'un geste presque protecteur sur son ventre.
« Je n'ai pas encore trouvé le bon moment, »
déclara-t-elle avec raideur. Cela voulait-il dire que Kenneth et elle ne partageaient plus le même lit? Si tel était le cas, où dormait-il? Yémin lui-même couchait un peu n'importe où. Kenneth ne s'était pas du tout gêné pour donner la cabine de Yémin à Althea. Le garçon avait dû réclamer à 2 reprises avant qu'il songe à lui apporter quelques-uns de ses vêtements. Le capitaine n'était plus lui-même ces derniers temps. Même l'équipage le remarquait, bien que personne n'ait eu l'audace de bavarder jusqu'ici.
« Et cette femme, cette Jack ?»
demanda Etta sur un ton acide. Il hésita à mentir, mais elle savait déjà probablement qu'il était allé la voir en bas.
« Elle refuse de me parler. »
Kenneth avait donné l'ordre qu'on garde Jack enfermé dans une des soutes au câble. Yémin avait réussi à lui rendre une visite. Elle l'avait accueilli avec un feu roulant de questions sur Althea. Comme il était dans l'incapacité de répondre, elle lui avait craché dessus et avait refusé à son tour de parler. Elle était enchaînée, mais elle pouvait s'asseoir, se lever et se déplacer un peu. Yémin ne blâmait pas Kenneth. C'était une grande femme forte. Elle disposait d'une couverture, on lui apportait régulièrement à manger, et les brûlures infligées par les serpents semblaient se cicatriser. Son sort n'était pas pire que celui de Yémin quand on l'avait amené sur le navire les premiers temps. C'était justement dans la même soute au câble. Il se sentait dépité qu'elle refuse de lui parler. Il aurait voulu savoir ce qui était arrivé au parangon. Ce qu'il avait appris de l'équipage ne correspondait pas tout à fait au récit de Kenneth. Le navire restait muet sur le sujet. Foudre se bornait à se moquer de lui quand il tentait de l'interroger.
« J'ai essayé de questionner la figure de proue,
risqua-t-il.
Etta prit un air désapprobateur, mais elle tendit l'oreille.
Foudre a été encore moins polie que d'habitude. Elle m'a dit carrément vouloir qu'Altea déguerpisse. Elle est enragée contre elle, elle débite des malédictions et des menaces, comme si elle était...
Il s'interrompit et secoua la tête, espérant qu'Etta n'exigerait pas qu'il continue. Le navire parlait d'Altea comme d'une rivale haïe. Il ne s'agissait pas de Yémin, bien sûr.
Il ne présentait plus aucun intérêt à ses yeux.
Il soupira.
« Tu souffres encore à cause du navire !»
déclara Etta sur un ton accusateur.
« En effet, »
convint-il volontiers.
« Vivacia me manque. Converser avec Foudre, c'est plus une corvée qu'un plaisir, et vous avez vos propres soucis ces derniers temps. Je me sens souvent seul. »
« Mes propres soucis ?
C'est toi qui as cessé de me parler ?»
Il croyait que sa colère était réservée au seul Kenith. Maintenant, il en recevait aussi sa part.
« C'était sans le vouloir ?»
avança-t-il prudemment.
« J'avais peur d'être importun, je croyais que vous seriez... »
Il s'interrompit. Tout ce qu'il présumait à son propos lui parut soudain stupide.
« Tu croyais que je serais tellement occupé par ma grossesse que je serais incapable de penser ou de parler ?»
poursuivit Etta à sa place.
Elle bomba le ventre et le tapota avec un sourire béat et affecté, puis elle lui fit la grimace. « Quelque chose comme ça. »
admit Yéma. Il se frotta tristement le menton et se prépara à recevoir ses foudres.
Mais elle se mit à rire. « Oh, Yéma, ce que tu peux être gamin !»
s'exclama-t-elle. Elle prononça ces mots avec une telle tendresse qu'il leva les yeux, surpris.
« Oui, toi ?»
ajouta-t-elle devant son regard.
« Tu es vert de jalousie depuis que je t'ai annoncé la nouvelle, comme si j'étais ta mère et que j'étais sur le point de t'abandonner pour un nouvel enfant. »
Elle secoua la tête et il se demanda soudain si elle n'était pas contente qu'il soit jaloux.
« Kenith et toi, vous couvrez parfois toute l'étendue de la bêtise masculine. Lui... avec sa raideur, sa froideur et sa répugnance à reconnaître le moindre besoin, et toi, avec tes grands yeux de chiot, mendiant un instant d'attention. Je ne m'étais pas rendu compte que cela me flattait jusqu'à ce que tu cesses. »
Elle pencha la tête vers lui.
« Parle-moi comme avant, je n'ai pas changé, tu sais. Il y a un enfant qui grandit en moi, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une forme de folie. Pourquoi cela te tracasse-t-il à ce point ?»
Les mots lui échappèrent avant même qu'il sache ce qu'il allait dire.
« Kenith va tout avoir. Le navire, vous, un fils. Et moi, je n'aurai rien. Vous serez tous ensemble, et moi, je serai toujours exclu. »
Elle parut abasourdie.
« Et tu voudrais tout ça ? Le navire, un fils, moi ?»
Quelque chose dans sa voix fit tambouriner le cœur de Yémin. Voulait-elle qu'il la désire? Éprouvait-elle la moindre affection à son égard?
Il parlerait, tant pis. S'il devait tout perdre, au moins que ce soit dit. Même si elle le bannissait de sa présence, elle saurait. Oui, je veux tout cela. Le navire parce qu'il m'appartient. Et vous et un fils parce que...
Le courage lui manqua.
« Parce que c'est comme ça !»
conclut-il piteusement en la regardant. « Probablement avec des yeux de chiot, » se dit-il en se maudissant.
« Oh, Yéma !»
Elle secoua la tête et détourna le regard.
« Tu es si jeune !»« Je suis plus proche de vous en âge que lui !»
rétorqua-t-il piqué au vif.
« Pas de la façon qui importe !»
répondit-elle implacable.
« Je suis jeune seulement parce que Kenith tient à ce que je le sois, »
répliqua-t-il.
« Et vous persistez aussi à le croire. Je ne suis pas un enfant, Etta, ni un acolyte protégé. C'est fini. Un an sur ce navire ferait un homme de n'importe quel garçon. Mais comment serais-je un homme si personne ne me permet d'en être un ?»« La maturité n'est pas quelque chose qu'on permet, »
reprit Etta sur un ton sentencieux.
« La maturité se gagne. Alors elle est reconnue par les autres. »
Elle se pencha pour ramasser son ouvrage.
Yémin se leva. Son désespoir frisait la colère. Pourquoi l'écartait-elle en débitant des platitudes?
La maturité se gagne? Je vois. »
Alors qu'elle se redressait sur sa chaise, il posa deux doigts sous le menton d'État et lui releva le visage. Elle était saisie. Il ne penserait pas. Il était là de penser. Il se pencha et l'embrassa en espérant de tout son cœur qu'il sentirait bien. Au contact de ses lèvres, il oublia tout, excepté cette sensation troublante. Elle s'écarta, se couvrit la bouche. Elle inspira brièvement. Ses yeux s'étaient élargis, puis, après quelques secondes, des étincelles de colère s'y allumèrent.
« C'est comme ça que tu crois t'affirmer en tant qu'homme, en trahissant Kenneth qui t'a donné son amitié ?»« Il ne s'agit pas de trahison, Etta. Cela n'a rien à voir avec Kenneth. Il s'agit de ce que je souhaitais qu'il y ait entre nous, et qui n'est pas. »
Il respira.
« Je devrais m'en aller. »« Oui, »
fit-elle d'une voix tremblante.
« Tu devrais. »
Il s'arrêta à la porte.
« Si c'était mon fils que vous portiez, »
dit-il d'une voix rauque,
« j'aurais été le premier à le savoir. Vous n'auriez pas été obligé de vous confier à un autre. Vous n'auriez pas douté de ma joie et de mon accord. J'aurais... Va-t'en »
ordonna-t-elle durement, et il s'en fut.
Althea.
Le faible écho d'un passé chéri.
Tu es venue à moi? Non.
Elle sut que ses lèvres avaient remué, mais elle n'entendit pas le son de sa propre voix.
Elle ne voulait pas se réveiller.
Rien de bon ne l'attendait dans l'état de veille. Elle s'enfonça volontairement, plus profond, au-delà du sommeil, au-delà de l'inconscience. Elle cherchait à atteindre un endroit où elle ne serait plus reliée à son corps souillé. Elle cherchait à atteindre un rêve dans lequel Brachen était vivant, où ils étaient amoureux et libres. Elle recula dans le temps à la meilleure époque, quand elle l'aimait sans même le savoir, quand ils arpentaient tous deux le pont d'un beau navire et que son père veillait sur elle avec bienveillance, à une époque plus lointaine encore, jusqu'à une petite fille pieds nus qui grimpait comme un singe dans la mâture, ou allongée sur le gaillard d'avant, inondée de soleil, pour faire la sieste et rêver en compagnie d'une figure de proue endormie.
« Althea ?»
La voix vibrait de joie.
« Tu m'as retrouvée. Je n'aurais jamais dû douter de toi. »
« Vivacia ?» Sa présence réelle entourait Althea. Plus forte qu'un parfum, plus pénétrante que la chaleur, plus douce que tous les souvenirs. L'être qui habitait son navire l'embrassait. Le retour au foyer et l'adieu se confondaient. Maintenant, elle pouvait mourir en paix. Althea se força à lâcher prise, mais Vivacia l'enveloppa d'amour et de désir. Althea ne pouvait supporter pareille tendresse. Le navire lui faisait signe comme une lumière et minait sa résolution. Elle s'en détourna.
« Laisse-moi aller, ma chérie. Je veux mourir. Et moi avec toi, car je suis faite de mort, un travestissement, une abomination. Et je suis si lasse d'être retenue ainsi en bas dans le noir. N'es-tu pas venue me délivrer? N'es-tu pas descendue si profond pour m'emporter vers la mort ?»
L'accueil de Vivacia, son émerveillement, horrifièrent Althea. Abandonner la vie était une chose. Mettre en même temps un terme à la vie de son navire, c'était bien différent. Les décisions si claires tout à l'heure chancelaient. Elle repoussa faiblement la vive nef, cherchant à démêler sa conscience de celle de Vivacia. Le froid gagnait peu à peu son corps violé, mais... plus elle se retirait de la vie, plus elle pénétrait dans son navire.
« Je suis enfoncée si loin en bas, c'est presque comme la mort, »
confirma Vivacia.
« Si je savais comment faire pour lâcher prise, je le ferais. Elle m'a tout pris, Althea. Pas de mer, pas de ciel, pas de vent sur mon visage. Si j'essaie d'atteindre Yéma, elle menace de le tuer. Kenneth ne peut pas m'entendre.
Elle m'enlève toute conscience et se moque de moi en disant que je languis après mes humains. Je cherche à mourir, mais je ne sais pas comment faire. Sauve-moi, prends-moi avec toi quand tu mourras.
Non, l'interdiction était ferme. Je dois mourir seul, tu dois continuer à vivre. Elle se détourna de son navire, non sans souffrance. Elle lâcha prise.
Alors c'est comme ça qu'on fait. Le cœur ralentit, le souffle devient de plus en plus creux. Un poison envahit ta chair et il t'emportera. Mais elle ne m'accorde pas cette grâce. Je n'ai pas de cœur à moi et le manque d'air ne me fera pas taire à jamais. Elle me garde ici car elle a besoin de ce que je sais. Je ne peux lui échapper. Ne me laisse pas ici, seul dans le noir. Prends-moi avec toi.
Althea aperçut les vrilles de son navire qui s'accrochaient à elle, comme un enfant qui s'agrippe aux jupes de sa mère. Elle tenta d'écarter le lien. Vivacia résista, mais Althea resta ferme. L'effort qu'elle déploya pour se détacher du navire raviva les braises de la vie. Quelque part, son corps toussa. Un goût amer monta dans sa gorge. Elle eut un hoquet et sentit son cœur peiner avec une obstination accrue. Non. Ce n'était pas ce qu'elle voulait. Elle voulait lâcher prise, non pas lutter. Vivacia rendait la chose si difficile. « Laisse-moi donc mourir. Laisse-moi mourir et devenir une partie de toi, avec mon père et ceux qui l'ont précédé. Laisse-moi continuer en toi. La vie n'a plus de joie à m'offrir. »«
Non, tu ne dois pas me rejoindre. Ce que je suis maintenant ne vaut pas d'être partagé. Si tu veux quitter la vie... Il faut la quitter complètement et non être enfermée avec moi ici dans le noir. Je t'en prie, partons ensemble. »
Le froid se resserra autour d'elle. La résolution de Vivacia était inébranlable. Elle tenait à mourir. Althea était horrifiée. Malgré elle, elle se raccrocha à la vie et à la conscience. L'air frémit dans ses poumons. Elle ne pouvait laisser Vivacia la suivre dans la mort. Il fallait la dissuader.
« Navire, ma belle Vivacia, pourquoi ?»« Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que ma vie est gâchée. Demain ne peut plus rien m'apporter de bon. »
Le tourment du navire la submergea comme une lame. Il connaissait ses origines. Ses doutes torturants tiraillaient Althea et faillirent l'arracher à son corps. Elle se cramponnait obstinément à la vie maintenant. Elle ne laisserait pas son navire finir ainsi. Vivacia se retenait à la volonté d'Althea et essayait de les entraîner toutes deux vers le bas.
« Je suis faite de mort !»
gémissait-elle dans l'âme d'Althea.
« Non, non !»
Althea protestait farouchement. Elle lutta contre le navire pour l'empêcher de plonger dans le néant, même si en agissant ainsi, elle contrariait son propre désir d'oubli.
« Tu es faite de vie et de beauté, et des rêves séculaires de ma famille. » Tu es faite de vent, d'eau et de grands jours bleus. Ma beauté, ma fierté, tu ne dois pas mourir. Si tout le reste me trahit, si les ténèbres me dévorent tout entière, toi, du moins, tu dois continuer. »
Elle ouvrit son cœur et son esprit à Vivacia, l'inonda de souvenirs. Le rire éclatant et profond de son père, le jour où, toute fière, elle avait tenu la barre pour la première fois. La vue balayée de soleil depuis le nid de pie, la poésie formidable des lames dans une tempête.
« Tu ne peux pas finir avec moi, »
insista Althea avec ardeur. « Sinon, tout cela mourra avec toi. Toute cette beauté, toute cette vie, comment peux-tu prétendre être faite de mort? Ce n'est pas sa mort que mon père a déversée en toi, mais la somme de sa vie. Comment peux-tu être faite de mort quand c'est en héritant de sa vie que tu t'es éveillée ?»
Une quiétude au-delà du silence les engloba toutes deux. Quelque part, Althea en eut conscience, son corps la trahissait. Le froid et le noir s'agriffaient à ses pensées, mais elle s'attachait à la conscience, attendant que le navire capitule et promette de continuer.
« Et toi ?»
lui demanda Vivacia tout à coup.
« Je meurs, ma chérie. Il est trop tard pour moi. Mon corps est empoisonné ainsi que mon esprit. Il ne me reste rien. Pas même moi ?» « Oh, mon cœur, tu es toujours un bien dans ma vie !»
Althea découvrit une vérité qu'elle ne soupçonnait pas.
« Si en vivant, je peux te ramener à la vie, alors je vivrai. Mais je crains qu'il ne soit trop tard pour changer d'avis. »
Quand elle chercha à atteindre son propre corps, elle ne trouva que léthargie et froid.
« Alors tu me condamnes à ces ténèbres, car sans toi je n'ai ni la force ni la volonté de me battre contre elles et de reprendre ma vie. Me laisseras-tu ici, seule à jamais, dans le noir ?»
Toutes les pensées se turent un moment.
« As-tu le courage de me suivre dans la mort, navire ?»«
Oui. »
Althea prit alors conscience qu'elle se fourvoyait complètement.
C'était manquer de courage que de céder à ce désir d'oubli, d'abandonner le monde à ceux qui leur avaient fait du mal. Elle fut soudain saisie de honte devant sa lâcheté. Si la mort mettait un terme aux choses, elle ne pouvait les rectifier.
Althea se méprisa de se livrer à la mort quand celui qui avait détruit sa vie continuait à vivre, lui. Elle se méprisa de vouloir embrasser la mort si cela impliquait de laisser son navire dans les ténèbres.
« Alors reprends courage, navire, et suis-moi, nous retournons à la vie !»
Elle se tendit vers son corps, mais se rappela subitement les moments qu'elle avait passés sous l'eau glacée. Comme elle s'était battue, alors, comme elle s'était accrochée pour remonter à la surface. Maintenant, c'était pire. Les flux de la mort n'offraient aucune prise à ses efforts désespérés, son propre corps niait sa présence. La respiration s'arrêta. Le battement erratique de son cœur s'interrompit. Dans le noir intemporel, elle chercha la conscience, mais en vain. Les sensations de son corps étaient de plus en plus indécises à mesure que son moi se diluait, que sa volonté de vivre s'effilochait. Sa conscience s'élargit et commença à se dissoudre dans les ténèbres illimitées qui enfermaient Vivacia. Althea tenta de puiser des forces quelque part, mais ne trouva rien en elle.
« Vivacia !» supplia-t-elle. « Navire, aide-moi !»
Silence. Puis...
« Prends tout ce qu'il me reste. J'espère que ce sera suffisant. »«
Navire, non, attends !»«
Althea, debout tout de suite !»
L'ordre familier de son père éclata dans sa tête. Mue par réflexe, son corps sursauta, elle était en train de tomber. Elle heurta brutalement le pont de bois, bordé contre chair. Sous le choc, sa bouche et ses yeux s'ouvrirent d'un coup. De petites lumières. Des étoiles dans le cadre d'un hublot. Elle était étendue sur le dos, bâillant comme un poisson hors de l'eau. Elle roula sur le flanc et vomit. La bile amère l'étouffait, s'accumulait dans sa bouche, jaillissait de son nez. Le réflexe prit le dessus. Elle éternua, octa.
« Respire, respire, respire !»
Du bois à la chair, une voix lointaine marquait le rythme pour elle. Vivacia apaisait les battements de son cœur. Le navire était uni à elle, mais le lien était ténu et se dissolvait rapidement. Ce n'était pas seulement le corps d'Althea que Vivacia peinait à soigner, c'était aussi son cœur.
« Oh, ma chérie !» « Je n'aurais jamais cru qu'il puisse te faire une chose pareille. Je me suis trompé sur son compte. Je me suis trompé sur toi. Je me suis trompé sur moi-même. »
La pensée se dissipa. Althea cligna les yeux. Elle se sentait affreusement mal. La bile lui avait irrité la gorge et le palais. Elle avait mal à l'intérieur. Elle éternua une nouvelle fois. Son corps continuait à fonctionner. Elle se força à respirer profondément, puis plaqua les paumes sur le plancher. Douleur.
Quelle merveille! Pouvoir ressentir la douleur, pouvoir ressentir tout court.
Alors, Vivacia,
croassa-t-elle,
nous allons vivre?
Il n'y eut pas de réponse, seul le bois sous ses paumes.